Chapitre 44. Sous le porche miteux, la porte à la peinture écaillée s'entrebâilla.
« Vous avez une chambre ?»
demanda Richard. Avant qu'un homme aux yeux injectés de sang ait pu refermer la porte, il ajouta
« On m'a dit que vous en aviez une. »«
En quoi ça vous intéresse ?»
Bien que la question fût idiote, Richard répondit courtoisement
« Parce que nous ne savons pas où dormir. »
« Et en quoi ça me concerne ?»
Les échos d'une dispute conjugale à l'étage dérivaient jusqu'aux oreilles du sourcier. Derrière les portes, tout au long du couloir, des enfants pleuraient et des hommes beuglaient. Une odeur d'huile rance planait dans l'air, mêlée à d'autres relents aussi peu engageants. Tout au fond du couloir, la porte de derrière était ouverte. Dans la ruelle étroite, des enfants poursuivis par des gamins plus grands qu'eux pleurnichaient en courant sous la pluie.
« Nous avons besoin d'une chambre, »
répéta Richard sans grand espoir. Dans la ruelle, un chien hurlait à la mort, faisant écho aux pleurs des gosses.
« Vous n'êtes pas les seuls. Je n'en ai qu'une de libre et elle n'est pas pour vous. »
Nietzsche poussa Richard sur le côté et prit le relais.
« Nous avons de quoi payer, au moins pour la première nuit. »
Voyant que le type allait leur fermer la porte au nez, elle y plaqua une paume.
« C'est une chambre publique. Votre devoir est d'aider les citoyens à se loger. »
De l'épaule, l'homme ferma le battant, mettant un terme à la conversation. Furieuse, Nietzsche martela la porte de coups de poing.
« Laisse tomber, » dit Richard. « Allons plutôt nous acheter une miche de pain. »
En règle générale, la sœur de l'obscurité, un paradoxe de plus, obéissait toujours aux suggestions de son prisonnier. Mais cette fois, elle s'obstina, chacun de ses coups détachant du bois des écailles de peinture multicolores, les vestiges d'anciennes couches qu'on ne s'était pas donné la peine de décaper avant chaque remise en état.
« C'est votre devoir !»
répéta Nietzsche.
« Vous n'avez pas le droit de nous rejeter. Nous vous signalerons aux autorités. »
La porte s'entrebâilla de nouveau.
« Votre homme a un emploi ?»«
Non, mais... »«
Fichez le camp, sinon c'est moi qui vous signalerai aux autorités. » »«
Et en quel honneur ?»«
J'ai bien une chambre, mais elle est réservée aux gens en première position sur la liste d'attente. »
Et qui vous dit que ce n'est pas notre cas?
Vous auriez commencé par là. Vous avez une attestation de priorité, avec le cachet des services compétents? Des personnes qui en sont pourvues attendent un logement depuis des mois. De vulgaires voleurs, voilà ce que vous êtes. Des resquilleurs qui veulent prendre la place d'honnêtes citoyens respectueux des lois. Filez, avant que je vous dénonce au bureau d'inspection de l'équité urbaine.
Le type claqua de nouveau la porte. La menace d'une dénonciation eut raison de la combativité de Nietzsche. Avec un soupir, elle se détourna du bâtiment délabré et s'éloigna aux côtés de Richard, dans la rue battue par une pluie glaciale. Au moins, sous le porche, ils avaient été au sec pendant quelques minutes.
« Il faut continuer à faire le tour des immeubles, »
dit la sœur de l'obscurité.
« Si tu trouves un emploi d'abord, ça nous aidera sûrement. Demain, tu te mettras en quête d'un travail pendant que je nous chercherai un logement. »
Il restait quelques endroits où quémander une chambre, mais Richard n'y croyait plus beaucoup. Après d'innombrables refus, il aurait bien renoncé. Hélas, Nietzsche ne voulait rien entendre. Selon elle, le climat était inhabituellement rude pour une région si méridionale de l'Ancien Monde. Selon les gens du cru, le froid et la pluie ne dureraient pas, et le temps humide et chaud des jours précédents reviendrait. N'ayant aucune raison de mettre en doute leurs affirmations, Richard s'étonnait quand même de voir des bois et des champs verdoyants en plein milieu de l'hiver. Si quelques arbres étaient déplumés, la plupart arboraient encore leurs feuilles. Dans ce coin de l'Ancien Monde, la température ne descendait jamais assez pour que l'eau gèle, et tout le monde s'écarquillait les yeux de stupeur quand Richard parlait de la neige. De l'eau solide qui tombait du ciel et couvrait le paysage d'un épais tapis blanc. Il devait se moquer d'eux, il ne pouvait pas y avoir d'autres explications. Chez lui, l'hiver devait faire rage, et l'idée que Callan était en sécurité dans la cabane suffisait à le rendre insensible aux inconvénients de sa nouvelle existence. Sa femme avait de quoi manger, assez de bois pour se chauffer, et une excellente compagnie en la personne de Kara. Jusqu'au printemps, Callan ne risquerait rien. Cette certitude, combinée au souvenir de leur moment de bonheur, était sa seule consolation. Les sans-abri grouillaient dans toute la ville, se confectionnant des refuges de fortune avec tout ce qui leur tombait sous la main, y compris des couvertures imbibées d'eau qui leur garantissaient d'attraper une kyrielle de maladie. Nietzsche et son prisonnier auraient pu faire comme ces malheureux, mais Richard craignait pour la santé de la sœur de l'obscurité, en réalité pour celle de Callan qui partagerait le sort de sa mère.
Les endroits dont on nous a donné la liste,
dit Nietzsche en consultant un document officiel,
sont réservés aux nouveaux venus en ville, pas seulement aux personnes prioritaires. La cité a besoin de travailleurs, et l'administration devrait s'activer davantage pour les loger. Richard, tu vois à quel point la vie est difficile pour les gens ordinaires.
Et comment se fait-on inscrire sur cette fichue liste?
Demanda le sourcier, absolument pas d'humeur à polémiquer.
Il faudra nous présenter à l'inspection de l'équité urbaine et demander qu'on nous enregistre.
Et ça servira à quoi s'il n'y a pas assez de logements?
Des gens meurent chaque jour, Richard.
Il y a de l'embauche ici. C'est même pour ça que nous y sommes venus.
Je travaillerai dur,
et nous proposerons plus d'argent aux logeurs. Pour ce soir, avec les pièces qui nous restent, on devrait pouvoir s'offrir une chambre en ne lésinant pas sur la dépense. Et ensuite, quand j'aurai un salaire, nous procéderons de la même façon. C'est bien plus efficace que cette histoire de liste.
Richard, comment peux-tu être si inhumain?
Avec ton système, comment les pauvres se logeraient-ils?
L'ordre fixe le montant des loyers pour neutraliser les profiteurs, et il s'assure qu'il n'y a aucun favoritisme. L'égalité est le maître mot, comprends-tu? Dès que nous serons inscrits sur une liste, tout s'arrangera.
En marchant, Richard se demanda combien de temps il faudrait pour que leur nom arrive en première position. En toute logique, il devrait y avoir beaucoup de décès, et quand ce serait fait, des centaines de personnes prieraient pour qu'ils aient un accident ou contractent une maladie mortelle. Slalomant entre les passants qui zigzaguaient eux-mêmes pour éviter les flaques de boue, il se demanda si le plus simple n'était pas de dormir hors de la ville, comme le faisaient beaucoup de gens. Hélas, les gardes ne patrouillaient pas au-delà des murs d'enceinte, et les sans-abri se faisaient souvent détrousser quand ils avaient la chance de ne pas finir égorgés. Si Nietzsche n'avait pas catégoriquement rejeté cette option, ils auraient pu vivre très à l'extérieur de la cité, par exemple en se construisant un refuge qu'ils auraient partagé avec d'autres personnes pour mieux assurer sa sécurité. La nuit tombait peu à peu. Devant la boulangerie, la file d'attente s'étendait sur presque tout le pâté de maison.
« Pourquoi ces queues interminables ?»
demanda Richard agacé. Quand ils allaient acheter du pain, c'était le même calvaire tous les jours.
« Il n'y a sûrement pas assez de boulangeries, » répondit Nietzsche.
« Avec autant de clients, les vocations ne devraient pourtant pas manquer. »
La sœur de l'obscurité se pencha vers Richard, le regard noir sous ses sourcils froncés.
« Le monde n'est pas aussi simple que tu le penses, Richard. Jadis, dans l'ancien monde, la perversité naturelle de l'humanité n'était pas bridée, exactement comme là d'où tu viens. Les commerçants fixaient librement le prix de leurs produits, et bien entendu, ils ne pensaient qu'à leur intérêt. En ce temps-là, seuls les nantis pouvaient s'offrir du pain. L'ordre a fait cesser ce scandale. Ici, les autorités se soucient du bien de tous, pas seulement du confort d'une minorité de privilégiés.
Nietzsche s'enflammait toujours dès qu'elle évoquait la nature profondément mauvaise de l'humanité. Pourquoi une sœur de l'obscurité voyait-elle cela d'un mauvais œil? Même s'il s'en étonnait, Richard ne s'en souciait pas assez pour approfondir la question. La queue n'avançait pas très vite. Intriguée par leur murmure, la femme qui précédait le sourcier déchu et sa geôlière se retourna. Bien qu'elle le foudroyât du regard, méfiante pour une raison qu'elle était seule à connaître, Richard lui fit un grand sourire.
« Bonsoir, madame, »
dit-il. Sa courtoisie adoucit un peu la mégère.
« Ma femme et moi sommes nouveaux en ville, et je cherche du travail. Bien entendu, nous sommes aussi en quête d'un logement. Seriez-vous ou un jeune couple comme nous pourrait en trouver un ?»
La femme se retourna à demi, son cabas tenu à deux mains comme si elle craignait qu'on le lui arrache. Pourtant, il contenait seulement un morceau de fromage jaunâtre. Richard sourit de nouveau et son ton convivial, si artificiel fut-il, désarma son interlocutrice qui ne semblait pas habituée à ce genre de comportement.
« Pour avoir une chambre, il faut d'abord travailler. Il n'y en a pas assez pour tout le monde à cause des nouveaux ouvriers qui arrivent chaque jour, grâce en soit rendue à la profonde sagesse de l'ordre. Si vous n'avez pas de problème physique, quelqu'un vous embauchera. Ensuite, votre nom sera inscrit sur une liste d'attente. »
Alors que la queue avançait de quelques pas, Richard se gratta pensivement le menton.
« J'ai hâte de travailler. » Pourtant,
Il est plus simple de se loger quand on n'en est pas capable.
Mais vous venez de dire le contraire.
Eh bien, pour les jeunes gens en bonne santé, c'est la stricte vérité. Les personnes malades, comme mon pauvre mari, sont prises en charge gratuitement et on les place d'office en tête de liste. Mon époux est phtisique et est très gravement atteint.
Je suis désolé pour lui et pour vous.
Souffrir est le lot de l'humanité, parce qu'elle a le péché dans le sang. On ne peut rien faire contre ça, alors autant se résigner. Après la mort, certains d'entre nous seront récompensés. Dans ce monde, notre devoir est d'aider les plus malheureux que nous. C'est comme ça qu'on obtient le salut dans l'autre monde.
Richard n'émit pas de commentaire.
Ceux qui peuvent travailler doivent se consacrer à soutenir ceux qui n'en ont pas la possibilité.
Je suis prêt à retrousser mes manches, assura Richard. Nous venons, d'un village de paysans et la façon dont marchent les choses en ville nous dépasse.
Grâce à l'ordre, dit un homme derrière le jeune couple, nous ne manquons jamais de travail.
Richard se retourna pour étudier son nouvel interlocuteur. Vêtu d'un manteau de toile boutonné jusqu'au cou, il avait de grands yeux marrons qui s'ilaient sans cesse très lentement, comme ceux d'une vache en train de ruminer. Le mouvement latéral de sa mâchoire quand il parlait accentuait cette impression.
L'ordre accueille tous les travailleurs qui veulent participer à la lutte pour le bien de tous, ainsi que l'a prescrit le Créateur. Mais pour avoir un emploi, il faut respecter certaines règles.
L'estomac torturé par la faim, Richard écouta les explications du type, au moins elle l'aiderait à penser à autre chose.
Pour commencer, il faut appartenir à un groupe de citoyens travailleurs, des organisations qui défendent les droits des administrés de l'ordre.
L'adhésion est très simple. Il suffit de se présenter devant le comité d'admission, puis de passer devant un sous-comité qui déterminera vos aptitudes, vous orientera vers un emploi adapté, et vous l'obtiendrez par l'intermédiaire d'un de ses agents agréés, qui se portera garant pour vous. Sans tout ça, pas de travail.
Pourquoi ne puis-je pas aller directement voir un employeur ? Si je fais l'affaire, il lui suffira de m'embaucher.
Être un étranger ne vous autorise pas à négliger votre devoir sacré envers l'ordre impérial.
Ai-je prétendu ça ? Mais j'ai toujours travaillé à mon compte, dans une ferme, pour produire de quoi nourrir mes frères humains. Le fonctionnement des entreprises me dépasse.
L'homme regarda soigneusement autour de lui avant de répondre.
Les entreprises et les commerces ont pour mission de contribuer au bien-être commun. Leur devoir est d'être équitable, et le sous-comité vérifie que c'est bien le cas. Il y a davantage en jeu que des histoires de marché et de bénéfices.
Je vois,
mentit Richard.
Auriez-vous l'obligeance de me dire en détail comment je dois m'y prendre ?
Il jeta un rapide coup d'œil à Nietzsche.
Je veux être un bon citoyen, respectueux des lois.
En écoutant ces explications données sur un ton débordant de fierté, Richard paria que l'homme était impliqué à un niveau ou à un autre dans le mystérieux processus qui menait à l'obtention d'un emploi. Sans demander comment diantre il pourrait convaincre un agent agréé de défendre ses intérêts, le sourcier écouta patiemment un long discours où le nom du Créateur, qu'avait-il donc à faire là-dedans, revenait toutes les deux phrases. Nietzsche regarda son prisonnier avec une certaine inquiétude. Le connaissant bien, elle devait s'attendre à le voir exploser d'une minute à l'autre. Mais qu'aurait-il tiré d'une altercation avec cet étrange individu ?
Nommé Maître Gudgeons, le type semblait surtout être spécialisé dans le domaine des carrières. Ne connaissant rien à l'extraction de la pierre, Richard, pour passer le temps, lui posa quelques questions qui lui valurent des réponses précises et très longuement développées. Bien entendu, la boulangerie fut à court de pain longtemps avant d'avoir pu servir tous ses clients. Dépité, la foule se dispersa en grommelant. Avant de les quitter, Richard prit la peine de remercier la femme au cabas et Maître Gudgeons.
Pendant que Nietzsche étudiait sa liste de loueurs potentiels, Richard s'arrêta à un carrefour à côté d'elle et sonda son environnement. Au milieu d'une multitude de maisons grisâtres, il repéra un bâtiment orné sur le côté d'une grande silhouette peinte en rouge, tellement décolorée, cela dit, qu'on aurait cru contempler un fantôme rosâtre. Les quelques mots écrits sous le personnage ne devaient plus être lisibles depuis des décennies. Certains passants jetaient des regards lubriques à Nietzsche, dont ils ne pouvaient pourtant pas apercevoir le visage. Les cheveux collés sur le crâne, la sphère de l'obscurité gardait la tête baissée sur son document. Et bien qu'elle tremblât de froid, elle ne tempêtait pas contre le climat, à l'inverse de tous les gens qu'ils avaient croisés. Jusqu'au lendemain, Richard et sa compagne n'auraient pas le droit de se procurer une autre liste de chambres libres. Nietzsche tentait de ne pas abîmer celle qu'il détenait, mais avec la pluie, c'était une mission quasiment impossible. Des chariots tirés par des chevaux harassés éclaboussaient régulièrement les passants. Ici, seules les artères principales, comme celle-là, permettaient à ces véhicules de circuler dans les deux sens. Dans les autres, on pouvait suivre une seule direction, à condition qu'elle ne soit pas bloquée par un chariot qui venait de perdre une roue, voire par le cadavre d'un cheval mort en plein effort, comme Richard l'avait vu en une occasion. Bien entendu, ces voies bouchées congestionnaient encore plus le trafic dans les autres. Tout au long de sa première semaine de séjour, Richard avait failli vomir en sentant l'odeur de pourriture qui montait des ruelles les plus étroites, qui servaient d'égouts à ciel ouvert. Puis, il s'y était habitué, comme tout le monde. Les venelles où Nietzsche et lui avaient dormi étaient les pires dépotoirs, et avec la pluie, les immondices imbibées d'eau puaient encore plus fort. Depuis qu'ils voyageaient vers le sud, après avoir quitté Tanimura, toutes les villes qu'ils avaient traversées ressemblaient à celles-là. Des foyers de pauvreté où régnaient des conditions de vie inhumaines. Dans l'ancien monde, le temps semblait s'être arrêté, remplacé par une sorte de présent infini et stérile. Un jour, ces cités avaient dû être vibrantes d'énergie, leurs habitants luttant courageusement pour réaliser leurs rêves. Aujourd'hui, c'était du passé, et les gens s'en fichaient, comme s'ils vivaient dans une confusion permanente. Bien sûr, ils espéraient que leur sort s'améliorerait, mais sans avoir la moindre idée de ce qu'il fallait faire. Pour ne pas désespérer, ils se réfugiaient dans la foi, certains que la joie et la béatitude les attendaient dans l'autre monde. Et le cauchemar que Richard avait découvert était l'image très précise de ce qui guettait le nouveau monde quand il plierait les Chines sous le joug de l'ordre. Cette ville, cependant, était la plus grande de toutes, si grande que le sorcier n'aurait pas cru que ce fût possible s'il ne l'avait pas vue de ses yeux. Fort logiquement, elle était aussi la plus sale, la plus miséreuse et la plus triste. Alter Rang, la capitale du royaume du même nom, la cité natale de l'empereur Jagang. Après être entré dans l'ancien monde, Nietzsche et Richard avaient séjourné un moment à Tanimura, où se dressait naguère le palais des prophètes. Tombée très récemment sous la coupe de l'ordre, elle restait une belle et grande cité, aux larges avenues bordées d'arbres et aux bâtiments régulièrement ravalés. Bref, un avant-poste de l'ordre impérial jusque-là épargné par la gangrène qu'il communiquait à tout ce qu'il touchait. Pendant un peu plus d'un mois, Richard avait travaillé comme aide-maçon, préparant les quintaux de mortier pour la construction d'un grand bâtiment carré particulièrement inesthétique. Les ouvriers étant logés dans de modestes cabanes, Nietzsche s'était réjoui d'avoir un toit sur la tête. Impressionné par le sérieux de Richard, le contremaître l'aurait volontiers gardé dans son équipe. Un jour, alors qu'un des tailleurs de pierre était malade, il lui avait demandé de le remplacer. Travailler les blocs de granit au burin et au maillet avait été une révélation pour Richard. Sculpter du bois était déjà passionnant, mais ça... L'observant de temps en temps, les mains plaquées sur les hanches, le contremaître lui avait donné quelques conseils techniques. Puis, il lui avait laissé la bride sur le cou, car sa production était excellente. Après quelques jours, tous les blocs de granit qu'il avait taillés avaient été choisis pour servir de pierre d'angle au bâtiment. Puis, des sculpteurs étaient arrivés pour s'attaquer à un travail plus délicat, les ornements. Richard les avait regardés travailler avec une fascination croissante. Pour commencer, sur la façade, ils avaient sculpté une grande flamme qui symbolisait la lumière du Créateur. Dessous, ils avaient fait jaillir du granit une foule de fidèles agenouillés. Dans les palais où il avait vécu, en Aïdindril, en Dara, puis à Tanimura, Richard avait vu des sculptures magnifiques, mais rien qui ne ressemblât à celle-là. Dépourvues de grâce, de grandeur et d'inspiration, ces silhouettes distordues semblaient grouillées comme des cafards sous la grande flamme divine. Selon un des artisans, c'était la seule représentation acceptable de l'humanité, une engeance atrocement laide, incroyante et malveillante. En ayant assez vu et entendu, Richard était retourné tailler ses blocs de granit. Quand le gros œuvre avait été terminé, il s'était retrouvé au chômage. Les sculpteurs lui avaient proposé de travailler avec eux, mais il avait décliné poliment cette offre, pourtant flatteuse, parce que, gravé dans la pierre, la perversité de l'humanité ne lui disait rien. De toute façon, Nietzsche voulait repartir. L'étape à Tanimura leur ayant permis de se reconstituer un pécule, ils n'avaient plus aucune raison d'y rester et Richard n'avait pas été mécontent de s'éloigner à jamais des ignobles sculptures censées décorer le nouveau quartier général de l'ordre. En chemin pour Alterrang, dans toutes les villes qu'ils avaient traversées, Richard s'était étonné de découvrir des statues toutes plus horribles les unes que les autres, un véritable catalogue de l'abomination. Des malheureux fouettés par le gardien du royaume des morts, des pécheresses en train de s'arracher les yeux, des infirmes et des malades, des enfants et des femmes poursuivis par des brutes haineuses, des gens si maigres qu'ils ressemblaient à des squelettes ambulants, des repentis en larmes se jetant d'eux-mêmes dans leur tombe. Et à chaque fois, la lumière du Créateur, représentée par une flamme, brillait symboliquement au-dessus de ces spectacles de cauchemar. L'ancien monde vouait un véritable culte à la misère et à la dégradation des êtres. En voyageant vers le sud, en direction d'Alterrang, Nietzsche et Richard avaient fait de courtes étapes dans des villes où trouver du travail sans passer par un comité était possible, à condition de ne pas être regardant sur les horaires et le salaire. Le plus souvent condamné à se nourrir de soupe aux choux, il parvenait parfois à s'offrir un peu de riz et de lentilles, et très rarement un minuscule morceau de porc salé. Quand c'était possible, Richard pêchait et chassait, mais puiser dans les ressources naturelles n'était pas aisé parce que beaucoup de gens avaient la même idée. En chemin, les deux voyageurs avaient maigri, et Richard s'était moins étonné que certaines statues ressemblent à des squelettes ambulants. À part leur destination finale, Nietzsche n'avait rien imposé à son prisonnier. Elle le laissait au contraire décider de tout, et sans jamais se plaindre. Payant parfois quelques pièces de cuivre pour deux places dans diverses caravanes de chariots, ils avaient progressé lentement, passant de ville en ville et de campagne en campagne. Curieux de tout, Richard avait noté que beaucoup de champs étaient en jachère. Une curieuse politique, alors que la famine faisait rage un peu partout. Des fermiers avaient parfois consenti à leur vendre du lait et du fromage de chèvre. Quand ils ne combattaient pas, Richard pouvait reprendre un régime carné puisqu'il n'avait plus besoin de compenser les vies qu'il prenait en se servant de son pouvoir. En revanche, le fromage, depuis que son don s'était éveillé, lui donnait d'abominables nausées. Il avait dû faire avec pour ne pas crever de faim. La taille de l'ancien monde et la densité de sa population l'avaient d'abord ébahi, puis accablé. Jusque-là, il pensait que le nouveau et l'ancien monde étaient à peu près comparables. Une grossière erreur. En réalité, le nouveau monde était à peine plus qu'une puce sur le dos de l'ancien. En chemin, Richard et Nietzsche avaient croisé plusieurs colonnes de soldats en route pour les contrées du milieu. Mais à chaque fois, le sorcier s'était félicité que sa femme soit coincée jusqu'au printemps dans les montagnes. Face à des forces pareilles, il aurait détesté la savoir en première ligne. Quand Callan quitterait la cabane, l'armée de l'ordre serait prête à envahir le nouveau monde et toute résistance deviendrait inutile. S'il était aussi intelligent qu'il le paraissait, Raibich comprendrait, et il n'insisterait pas, sauvant ainsi des dizaines de milliers de braves combattants. Alors qu'il marquait une courte pause dans une petite ville, Nietzsche était allé laver leurs vêtements de rechange dans l'eau d'un petit ruisseau. Pendant ce temps, Richard avait gagné quelques pièces en nettoyant les stalles d'une grande écurie. Un groupe de représentants de l'ordre étant de passage, le propriétaire n'avait pas craché sur un peu d'aide, et Richard s'était proposé au bon moment. Peu après, l'énorme colonne de soldats qui escortait les notables avait dressé son camp à la lisière de la ville. Par bonheur, Nietzsche était très loin de là et ne risquait donc pas que quelqu'un la reconnaisse. Ayant moins de chance et malgré tous ses efforts pour passer inaperçu, Richard avait été repéré par un sergent recruteur. Bombardé volontaire, il avait été enrôlé dans l'armée de l'ordre et cantonné au milieu du camp avec les autres recrues plus ou moins consentantes. La nuit, il s'était rendu lui-même à la vie civile, non sans risquer 20 fois d'être surpris par une patrouille tandis qu'il traversait le camp endormi. Informé par le propriétaire de l'écurie, Nietzsche s'était lancé à sa recherche et l'avait rencontré en plein milieu de son évasion. Après avoir rassemblé leurs affaires, ils avaient marché tout le reste de la nuit en direction du sud, préférant les champs à la route au cas où une patrouille aurait recherché le déserteur. Après cette mésaventure, Richard avait adopté un profil bas dès qu'il apercevait l'ombre d'un soldat. Sauf recruteur un peu trop zélé, le risque n'était pourtant pas très élevé, car des hordes de jeunes gens attirés par la violence et la rapine brûlaient d'envie de s'engager. Trop nombreux, ils devaient parfois patienter des mois avant de faire leur classe. Dans chaque ville, Richard en avait vu des centaines occupés à jouer, à boire et à se bagarrer entre eux. De jeunes héros, révérés par la population, qui rêvaient de pourfendre les diaboliques ennemis de l'ordre, car pour eux, le nouveau monde était synonyme de perversion et de malveillance. Richard avait découvert avec horreur que les réserves humaines de Jagang étaient pratiquement illimitées. Pendant longtemps, il avait cru que les soudards de l'ordre se lasseraient de combattre loin de chez eux. Bien au contraire, cette idée les enthousiasmait. Quant aux civils, loin de désapprouver la guerre, ils y voyaient un lointain espoir d'améliorer leur sort. Il n'y avait nul besoin d'être sorcier ou prophète pour prévoir que l'armée du Nouveau Monde n'aurait aucune chance contre des millions d'envahisseurs. À très court terme, les contrées étaient condamnées. Terre d'Ouest et Dara tomberaient peu après. C'était inévitable. Depuis que les Andériens avaient opté pour la tyrannie, Richard sentait au plus profond de son âme que la bataille était perdue. Constater qu'il ne s'était pas trompé ne le réjouissait pas, mais il fallait être réaliste. Face à un tel adversaire, la liberté n'avait aucune chance, et résister revenait à se suicider. L'avenir du monde passerait par l'ordre impérial. Et celui de Richard semblait scellé. Jamais il ne reverrait Callan. Une semaine après avoir quitté Tanimura, alors que le sourcier broyait encore du noir à cause des atroces sculptures, Nietzsche s'était engagé sur une piste secondaire qui serpentait dans les collines jusqu'à une petite ville bâtie à côté d'une rivière. Une cité fantôme, ou presque, avec des fabriques et des bâtiments en ruine livrés aux caprices des intempéries. À sa périphérie, quelques maisons restaient occupées par des gens qui cultivaient la terre et élevaient de minuscules troupeaux. Dans le quartier nord, il restait une minuscule épicerie, une maroquinerie, une auberge délabrée et la boutique d'une diseuse de bonne aventure herboriste à 16 heures. Au centre, les rares bâtiments encore debout, mais désossés par les pillards, menaçaient de s'écrouler à chaque coup de vent un peu trop fort. Au sud, Nietzsche s'était arrêté devant les vestiges d'un grand bâtiment en briques. Sans dire un mot, elle avait mis pied à terre, quitté la piste et erré un long moment dans ce qui semblait être une fabrique à demi dévastée par un incendie. Alors que le vent faisait volter ses cheveux, la sœur de l'obscurité s'était recueillie près d'une heure au milieu de cette ruine, comme si elle était peuplée de fantômes et de souvenirs. Richard l'avait attendue, une hanche appuyée sur un établi tellement branlant qu'il n'avait pas intéressé les voleurs et les charognards de tout poil. « Tu connaissais cet endroit ?» avait-il demandé quand Nietzsche était enfin revenu à côté de lui. La sœur de l'obscurité avait sursauté, puis regardait longuement son prisonnier dans les yeux. Soudain, elle aussi ressemblait à un spectre. Approchant de Richard, elle avait laissé courir ses doigts sur le bois moisi de l'établi. « J'ai grandi dans cette ville. »«
Vraiment ? Et ce bâtiment ?»
C'était une armurerie à l'époque.
Une armurerie?
Que cherchait Nietzsche dans un endroit pareil?
Encore une fois, son comportement n'avait pas de sens.
On y fabriquait les meilleures armures de l'Ancien Monde. Des rois venaient en commander en personne.
Richard avait fait du regard le tour de la fabrique en ruine. Nietzsche ne lui disait pas tout, c'était évident.
Et l'armurier, tu l'as connu?
Ses yeux bleus voilés comme si elle voyait toujours des fantômes, la sœur de l'obscurité avait secoué la tête.
« Non. Désolé, je ne l'ai jamais connu. »
Des larmes perlant à ses paupières, Nietzsche ressemblait à une petite fille perdue dans un monde qui la terrorisait. S'il n'en avait pas su si long sur elle, Richard l'aurait prise dans ses bras pour la consoler.